forum du studio Calangou.
Le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Calangou, qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité nigérienne. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est l'attaque lundi du poste militaire avancé de la commune rurale d'Inates, région de Tillabéri. Le 33e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert hier jeudi à Niamey au Niger avec la réunion des ministres des Affaires étrangères. L'actualité, c'est aussi l'Assemblée générale de la campagne Tournons la page qui s'est ouverte lundi à Niamey avec une quarantaine d'acteurs des organisations de la société civile nationale et internationale. Pour analyser ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir.
Bonsoir.
Roufaye Dandoua, journaliste sportif. Roufaye Dandoua, bonsoir.
Bonsoir, Mokhtar.
Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à vous tous dans ce forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri. 18 soldats nigériens tués et 4 portés disparus, c'est le bilan communiqué mardi par les autorités suite à l'attaque lundi du poste militaire avancé de la commune rurale d'Inates, région de Tillabéri. Selon toujours le communiqué du ministère nigérien de la Défense, plusieurs terroristes ont été neutralisés ainsi qu'un de leurs camions et 2 véhicules kamikazes détruits. Hassan Boukara, avez-vous d'autres précisions sur l'attaque et l'identité des terroristes?
Merci Mokhtar, et bonsoir aux auditeurs. Je pense que les informations, ce sont surtout celles qui ont été diffusées par le gouvernement, donc ce communiqué officiel qui fait état de 18 personnes tuées et de 4 autres disparues. Bon, par la suite, on a laissé croire aussi qu'il y a des actions militaires de ratissage dans la zone pour retrouver les malfrats qui ont posé ces actes-là. Officiellement, l'information, c'est bien celle-là. Mais pour moi, la question que ça pose, c'est que il y a seulement quelques semaines, on a vécu une autre attaque dans cette zone, notamment à Tongo-Tongo, avec près d'une trentaine, voilà, plus d'une vingtaine, 28 personnes tuées à Tongo-Tongo. Alors, quelques semaines après, il y a comme un remake du même acte. Alors, la question, c'est est-ce qu'on tire les leçons de ce qui se passe? C'est-à-dire que lorsque on a vécu déjà en octobre 2017 cette attaque dans cette zone de Tongo-Tongo avec des soldats nigériens et américains tués, plusieurs attaques par la suite, des enlèvements de personnes ont continué. Puis on a 28 personnes tuées à Tongo-Tongo et quelques semaines après, les mêmes choses se répètent. Est-ce que réellement ont-ils les leçons? Au vu de ce qui s'est passé dans un passé récent, nous devons dire que cette zone est une zone extrêmement dangereuse pour laquelle il faut prendre des mesures. On ne voit pas ces mesures-là. Ça veut dire que c'est comme si demain, après-demain, d'autres actes similaires peuvent aussi se passer. On ne voit pas ce qui se passe. Alors, donc, la principale question, c'est celle-là. Je ne sais pas si le gouvernement a vraiment décrété un deuil. Moi, je n'en ai pas entendu parce que normalement, il devait avoir un deuil, même s'il y a une réunion de l'Union africaine à laquelle le gouvernement tient beaucoup. Il s'agit quand même de la vie des soldats, des gens qui se battent pour défendre la patrie. 18 personnes qui meurent, pour moi, normalement, il y a un deuil. On aurait pu, à défaut d'annuler la réunion de l'Union africaine, au moins annuler beaucoup d'activités qu'on a prévues autour pour dire que lorsqu'on envoie des gens se battre pour le pays, on est quand même soucieux aussi de leur intégrité, de leur vie. Donc, je n'ai pas encore entendu ça, ça me pose des questions. Mais globalement, ce qui s'est passé à Inates montre que peut-être qu'on n'a pas encore tiré les leçons, ou alors on a du mal pour l'instant à trouver la solution face à ces attaques qui sont répétitives sur nos frontières. On a du mal à trouver la solution peut-être. Alors, qu'on nous dise que les partenaires sont là pour aider le Niger, il y a des ratissages, il y a des avions qui survolent, tout ça. C'est comme on dit, le médecin après la mort. la capacité aujourd'hui à anticiper les choses, on ne les voit pas. On continue toujours peut-être à faire les mêmes pratiques. Chaque fois, on nous dit que c'est des jeunes soldats, très jeunes, qui ont été tués sur ces terrains-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié au fait que ces soldats sont très jeunes, etc. Je me pose la question. La communication gouvernementale aujourd'hui, ça consiste simplement à dire ils sont venus, ils ont tué, nous aussi on a tué. Bon, mais en dehors de ça aujourd'hui, vraiment les mesures qui sont prises pour sécuriser, pour rassurer les citoyens, toutes les populations qui vivent le long de cette frontière commune avec le Mali, on ne voit rien de tout ça dans la communication. Et donc, pour moi aujourd'hui, rien n'empêche aux gens d'être très inquiets par rapport à la situation dans cette zone du Niger. Et malheureusement, on ne voit pas quelle est la solution du gouvernement.
Hassan Boukhara, l'attaque du lundi survient au moment où Niamey accueille du 4 au 8 juillet un sommet de l'Union africaine, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui doit réunir une cinquantaine de chefs d'État. Aura-t-elle un impact ou une incidence sur ce sommet?
Ben, le seul lien qu'on fait, c'est qu'on voit le gouvernement très engagé à sécuriser cette rencontre de l'Union africaine. On parle d'environ 12 000 hommes engagés autour de la ville de Niamey pour sécuriser la réunion. Bon, mais la communication ne dit pas ce qu'on fait réellement pour que cette zone frontalière soit mieux sécurisée. On n'entend pas beaucoup ça. Alors, est-ce que ça aura un impact? Peut-être que la réunion de l'Union africaine parlera aussi de cette question de force africaine pour le maintien de la paix. Ça fait quelques temps déjà que l'Union africaine en parle. À un moment, j'ai cru comprendre qu'il y avait un budget évalué à peut-être 400 millions de dollars ou d'euros pour essayer de mettre en place cette force. J'ai cru comprendre qu'on a du mal à réunir le budget aujourd'hui, comme ce qui se passe avec le G5 Sahel. Peut-être que la réunion parlera de ça et trouvera les moyens peut-être de dire qu'il faut davantage le faire. Pour les pays sahéliens, c'est quand même un enjeu, la question sécuritaire. Pour l'instant, elle est plus urgente que la Zeleka, qui est un des sujets phares de cette rencontre de l'Union africaine. Alors, est-ce que ça va être discuté de ça? Dans les discours officiels, on en parle déjà. Mais peut-être que ce serait ça le lien. Mais aujourd'hui, je pense que pour les pays du Sahel au moins, il faut aller au-delà des simples condamnations. Il y a toujours ces condamnations de principe, le soutien au pays qui a été victime, etc. Mais aujourd'hui, puisqu'on a du mal à faire démarrer le G5 Sahel, il faut bien que l'Union africaine puisse aujourd'hui accélérer le processus de mise en place d'une force de maintien de la paix. Peut-être que ça peut aider à soulager les pays du Sahel.
Rufai Dandoua, quel enseignement les autorités pourront tirer de cette nouvelle attaque qui a encore endeuillé beaucoup de familles nigériennes?
Déjà, je crois que, comme l'a dit Abba, où il manque de vision, où il manque de stratégie, ou bien ce n'est pas une priorité pour le gouvernement nigérien, puisque c'est toujours la même chose, c'est toujours
la même
zone et à l'espace de quelque temps. À chaque fois, maintenant, vous allez entendre dire que il y a eu une course-poursuite ou une intervention militaire conjointe entre le Niger, les États-Unis, et on a tué telle personne. Côté assaillant, mais du côté nigérien, on n'a tué personne. Ouais, ça aussi, c'est une forme de communication. Mais je pense que lorsqu'on assiste à ce genre d'événements répétitifs dans un même endroit, il faut asseoir une stratégie pour dire pourquoi cela arrive chaque fois et au même endroit. Aujourd'hui, on se rend compte que dans la région de Diffa, il y a plus ce genre d'attaques. C'est une autre forme d'enlèvement de la part de on ne sait pas si c'est Boko Haram ou pas. Mais dans tous les cas, et comme aujourd'hui on sait que la situation la région la plus inquiétante, c'est vers Tillaberi, pourquoi ne pas prendre des solutions adéquates? Quand on, comme l'a dit Abba, quand on met 12 000 personnes pour sécuriser rien que la ville de Niamey, vous imaginez que lorsqu'on veut quelque chose, on peut le faire. Donc, quelque part, on a l'impression que ce qui se passe dans le nord de l'Abéry n'est pas une priorité du régime en place. On ne va pas jusqu'à dire que l'enfant pas est de ça un problème majeur, mais je pense que quelque part, on ne se focalise pas là-dessus pour trouver une solution. Pourquoi? Parce que c'est juste une zone et on connaît comment ça se passe, le même mode opératoire. pourquoi donc ne pas élaborer un plan avec tous les militaires qu'on a, avec tous les grands stratèges qu'on dit avoir. Il faut aussi, avec l'aide des armées étrangères qui sont là, s'asseoir pour trouver une solution. J'ai vu hier le ministre de l'Intérieur qui a été dans la salle de vidéosurveillance pour sécuriser la ville de Niamey. Vous imaginez que lorsque ils ont mis les moyens, elles peuvent atteindre ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, on annonce par exemple la présence du président égyptien Al-Sisi. Et tout le monde sait que lorsque ce genre de personnalité se déplace dans des pays comme le Niger, il faut déjà avoir
une certaine rassurance
de la part des puissances étrangères, amis. C'est la même façon que lorsqu'un autre président du pays anglophone va venir, il faut que ou les Français ou les Américains sécurisent cela. Vous voyez donc, lorsqu'on peut faire tout cela, pourquoi ne pas sécuriser les dizaines ou les centaines de Nigériens qui sont en train d'être tués froidement? Et pire encore, on ne fait rien.
Selon vous, Rufai Dandoua, c'est un manque de volonté.
Pas volonté. Moi, je pense qu'on n'a pas priorisé cela. Pourquoi? Parce que lorsqu'on priorise, par exemple, la sécurisation du sommet de l'Union africaine...
Non, on peut sécuriser une région.
Tous les moyens nécessaires. Lorsqu'on se bat pour avoir, par exemple, l'organisation de cet événement, et avec tout ce qui s'ensuit comme moyen qui doit être mis pour sécuriser les personnes, la ville de Niamey. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous sortez la nuit, à partir de 22h, 23h, voire minuit, comment la ville est quadrillée. Toutes les voitures qui sortent sont fouillées, les personnes à pied aussi, les personnes à moto. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire. Pourquoi ne pas le faire là-bas? Du moment où on sait que les gens sont en train d'être tués. Je pense que peut-être que maintenant, ils ne vont pas se focaliser là-dessus. C'est pour cela que, comme l'a réclamé Abba, on n'a pas décrété le lieu national parce que ce n'est pas le moment pour eux. L'objectif aujourd'hui, c'est le sommet de l'Union africaine, donc il faut le finir. Je pense qu'après cela, comme la priorité des priorités est finie, il faut s'asseoir pour élaborer une stratégie, pour dire qu'est-ce qui s'est passé réellement là-bas, pourquoi toujours la même chose et au même endroit, et comment éradiquer cela. Et je pense que c'est facile, on peut le faire.
Ah bah, vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, je veux dire, comme Orfaï l'a dit, toujours la même chose au même endroit. En fait, je vois bien les difficultés de lutte contre ce type d'ennemi. Hein. Tout le monde dit que ce n'est pas comme des armées régulières. C'est parfois des gens qui agissent par petits groupes restreints, avec une forte mobilité, sur des espaces de terrain qui sont assez larges, toute la frontière.
Et qu'ils maîtrisent aussi.
Et qu'ils connaissent bien, oui. Je vois ça là. Voilà, que les militaires se sont censés connaître. Alors regardez, par exemple, depuis quelques années, la démarche du gouvernement, c'est de dire chaque fois qu'il faut augmenter les ressources. Le gouvernement dit, on a multiplié par 10 les dépenses. Certains disent, on met 15% du budget pour la défense, la sécurité. Là, il y a à peine quelques jours, à peine une semaine, le gouvernement a fait un collectif budgétaire dans lequel il est allé prendre des ressources dans l'éducation, dans la santé, et couper dans plusieurs secteurs pour réunir à peu près 30 milliards qu'il rajoute au budget du ministère de la Défense pour dire qu'il faut acheter du matériel militaire. C'est bien tout ça là. Alors, pendant toute cette période, les gens ont quand même interrogé cette démarche-là en disant on a mis beaucoup d'argent. Est-ce que, à défaut je me souviens par exemple, l'opposition disait, est-ce qu'on peut auditer finalement ces dépenses? Est-ce que réellement ces dépenses sont allées vraiment sur le terrain? Est-ce que ça a servi à acheter du matériel militaire?
On parle du secret défense.
Oui, bon, les gens disent secret défense, mais dès lors que vous le mettez dans le budget, au moins des parlementaires sont en droit de dire on veut voir plus clair. Alors, le gouvernement, évidemment, il rejette ce type de demande. Lui-même, il ne communique pas là-dessus. Mais chaque fois, on demande plus d'argent aux contribuables. On sacrifie les secteurs sociaux, éducation, santé, agriculture, pour chercher des ressources. On dit, on le fait pour la défense. Très bien. Tout le monde dit que la sécurité n'a pas de prix. Mais on n'a pas de résultats. Il faut l'admettre. On n'a pas de résultats. Alors, est-ce qu'on est défaillant dans la stratégie? Est-ce que finalement, aujourd'hui, des questions comme le renseignement sur lesquelles on aurait pu mettre l'accent, tout le monde dit, si on a les renseignements, ça permet de prévenir les choses, pas d'agir après les morts. Alors, on ne voit pas toutes ces choses-là. Et donc, du coup, tout en disant, tout le monde perçoit aujourd'hui la difficulté qu'il y a à lutter contre ces groupes. Et donc, on n'est pas naïf, en fait, on sait que c'est difficile. Mais en même temps, on a du mal à voir. Je veux dire, la démarche du gouvernement ne nous rassure pas. La chose qu'on voit aujourd'hui, ce sont ces morts. Et c'est
insupportable aujourd'hui. C'est-à-dire que 28 morts il y a à peine 3 semaines, plus de 18 personnes qui meurent, on parle de personnes perdues. Alors ainsi de suite, je pense que ça fragilise le moral aussi des personnes.
Hassan Boukhara, avez-vous une idée sur la revendication de cette attaque ?
Oui, puisque l'État islamique au Grand Sahara a quand même revendiqué cette attaque. Il parlait des combattants du djihad, etc., qui ont porté l'attaque sur cette zone frontalière avec tout ce qu'on connaît. Bon, ce sont ces groupes qui l'ont revendiqué, ce sont presque les mêmes groupes chaque fois. C'est vrai que il y a beaucoup de groupes qui interviennent dans cette zone, mais là, ça a été revendiqué par l'État islamique au Grand Sahara. Je pense que tous ces groupes ont en commun d'être des terroristes, des groupes qui, en tout cas tous ces groupes qui agissent au Mali, que ce soit sur la frontière avec le Niger, de l'autre côté du Burkina, et tout ça, ce sont quasiment les mêmes groupes. Mais pour moi, la difficulté aujourd'hui, c'est vraiment celle des États. Ou alors aujourd'hui, au vu de toutes ces conséquences catastrophiques pour le Niger et pour le Mali, est-ce qu'il faut mettre en avant d'autres types de solutions ? Est-ce qu'il faut arriver à la conclusion que la solution militaire montre ses limites ? Est-ce qu'il y a autre chose à faire, par exemple ?
Rufai Dandoua, cette attaque intervient après celle de Tongo Tongo. Hassan Boukhara l'a rappelé, qui a fait officiellement 27 morts dans les rangs des forces nigériennes, toujours dans la même zone. Inates a déjà été attaqué à plusieurs reprises par les groupes armés dans cette région frontalière du Mali. Comment parvenir à bout de ces attaques surprises ?
Justement, je crois qu'on a presque répondu à cette question, mm-hmm. mais je voudrais revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure quand vous demandez qui est derrière. Est-ce que c'est important de savoir aujourd'hui qui est derrière ces attaques contre l'armée, que ce soit l'État islamique, que ce soit Boko Haram, c'est toujours, comme l'a dit Abba, des terroristes. Ce qu'il faut relever ici, c'est le paradoxe entre le rehaussement chaque fois du budget et de la défense pour acheter des matériels de guerre et au même moment, les attaques qui se multiplient et au même endroit, ou bien ça se répercute même dans d'autres endroits. Donc c'est ça qu'il faut. Je pense que quelque part, ce n'est pas au fait la faillite de la stratégie. C'est que je crois qu'il n'y a même pas de stratégie. Et malheureusement, personne ne tire les conséquences, ni du côté militaire, où on doit dire, bon, moi en tant que militaire, par exemple, en tant que chef d'état-major, ou en tant que général, j'ai failli, je laisse la place. Personne ne le dit. Non, tout le monde préfère se taire. On fait des communiqués quand il y a des attaques, on tue, on dit qu'on présente des condoléances aux gens, les parents ont perdu.
Et puis c'est tout.
Et puis c'est tout. Moi, je pense qu'il faut que les gens, et avant déjà d'avoir la stratégie pour éradiquer ce problème, il faut que les gens tirent les conséquences de l'échec. Puisque échec, on peut en parler aujourd'hui avec tout ce qu'on constate, tout ce que vous avez cité aujourd'hui. Il faut qu'on tire les conséquences de cela. Et après, maintenant, s'asseoir. S'il faut changer des hommes, il faut les changer et élaborer une vraie stratégie. C'est vrai, c'est une guerre qui n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, c'est des forces diffuses de la nature qui peuvent surgir à tout moment sans avertir. Mais quand même, lorsque vous avez une armée, elle doit censée contrôler au moins son territoire sur lequel elle est. Si votre armée ne contrôle pas ou ne connaît pas le terrain sur lequel elle intervient, là, il y a danger. Donc je pense que c'est à tout cela qu'il faut penser pour trouver maintenant et asseoir une vraie stratégie et aller combattre l'ennemi.
Les travaux du 33e sommet de l'Union africaine se sont ouverts hier à Niamey avec la réunion des ministres des Affaires étrangères dans un contexte de défi sécuritaire majeur pour le Niger. La mobilité des usagers a été réduite avec un accès limité à certaines infrastructures routières. Selon le spécialiste des questions sécuritaires, Dr Diko Abdraman de l'Université de Zander, la sécurité concerne tout un chacun. Cependant, le respect par les populations des consignes de sécurité communiquées par les autorités de la ville peut épargner nos villes. Diko Abdraman est au micro de notre correspondant de Zander, Mustapha Mamansani.
Ce sommet intervient dans un contexte sécuritaire délétère avec toutes les attaques que nous avons connues récemment. Donc pratiquement, c'est un volcan qui se réveille subitement. Et incontestablement, les larves de ce volcan-là coulent sur beaucoup de régions du Niger. Pourquoi pas Niamey ? Donc voilà pourquoi le Niger doit comprendre qu'aujourd'hui, les stratégies que nous avons opérationnalisées ne sont plus productives. La sécurité, comme je l'ai toujours dit, n'est pas seulement une affaire de l'État. C'est une affaire qui concerne aussi les citoyens. Le seul conseil que je dois donner aux Niaméens, c'est de respecter de manière scrupuleuse les dispositions prises par les forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité d'abord de nos invités mais aussi de nous-mêmes. Seul le renseignement peut faire en sorte qu'on soit dans la logique de ce qu'on appelle la logique de contingence qui est basée sur la formulation officielle d'un certain nombre de scénarios, d'un certain nombre de prospectives peuvent épargner nos villes ou nos états d'une éventuelle attaque.
Rufai Dandoua, votre commentaire après avoir écouté Dr Diko Abdourahmane.
Je pense qu'il a raison, il faut coopérer. Et je pense que c'est ce que fait la population de Niamey. Moi, j'étais sorti au-delà de minuit ou 23 heures. J'ai vu comment la population coopère, les polices, la gendarmerie, y compris les militaires. Aujourd'hui, tout le monde est associé. Quand on vous arrête, les gens sont là et ils coopèrent. Je pense que c'est
les gens comprennent aussi.
Je pense que c'est important de comprendre. Aujourd'hui, il n'y a pas matière à se diviser. Ce n'est que 4 jours le sommet, du 4 au 8, c'est ça, non? Donc je pense que les Nigériens doivent s'unir derrière cela. Dans tous les cas, comme aiment le dire les jeunes, c'est le Niger qui gagne, quoi. Je pense que le sommet de l'Union africaine, quoi qu'on dise, c'est une grande chose pour le Niger. C'est vrai, c'est un événement historique. Et déjà, vu l'ampleur de la participation de nombre de chefs d'État qui ont annoncé leur participation et même déjà en ayant l'occasion d'accueillir ce sommet au moment où le Niger aussi a été élu au Conseil de sécurité et au moment où le Niger va accueillir en 2020, je crois, le sommet des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Je pense qu'en termes de diplomatie, c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est vrai que le président est en train de réussir son pari, mais c'est vrai aussi que la sécurité sur ce plan, comme l'a dit Dr Diko, que c'est très important et ça s'annonce à un moment où il y a beaucoup d'attaques, comme on venait de l'évoquer. Donc, je pense qu'on doit être unis. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité dans tout cela, dans tout ça. Dans tous les cas, c'est le Niger. Si aujourd'hui ça échoue, c'est le Niger, même si, après, l'opposition peut tirer profit de cela. Mais aujourd'hui, il faut s'unir. S'il y a des divergences, il faut les réveiller après le sommet. Mais aujourd'hui, il faut s'unir pour réussir ce sommet.
Mais Rufai Dandoua, comment expliquer la limitation à partir du 6 juillet, l'accès à certaines infrastructures routières telles que le premier pont, à certains quartiers administratifs?
Oui, je pense que, personnellement, moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que cela soit fait. Pourquoi? Parce que il y aura beaucoup de délégations qui vont venir. Et déjà, on sait que quand le président se déplace, le seul président qui se déplace pour aller à l'aéroport pour voyager ou pour recevoir un invité, comment la circulation est limitée. Imaginez plus de 50 délégations, parce qu'au-delà des chefs d'État qui vont venir, il y a aussi l'Union africaine elle-même, il y aura la CDAO, il y aura d'autres organisations internationales. Je pense que ça, vraiment, il ne faut pas trouver polémique là où il n'y en a pas. Il faut coopérer. Il faut coopérer, il faut travailler avec ce qui a été fait, c'est des mesures de sécurité.
Rufai, dans cette zone-là, il y a l'hôpital national de Niamey.
Oui, bien sûr, il y a l'hôpital national de Niamey.
Les malades ont besoin de visites, ils ont besoin de rendez-vous.
Oui, c'est pour ça qu'on avait anticipé de la communication pour dire aux gens, à partir de tel moment, il y aura telle activité, il y aura telles conséquences qui vont advenir, donc prenez les précautions. Il n'y a pas que l'hôpital national de Niamey, il y a l'hôpital de référence. Les gens peuvent se référer là-bas, il y a la Mordi aussi. Les gens peuvent,
il y a Poudrière.
Voilà, il y a Poudrière. Donc, maintenant, quand ce genre de choses arrivent, c'est des maladies, ça arrive, ça ne prévient pas. Donc, le fait de dire aux gens, voilà ce qui va arriver à partir de tel moment, c'est du 6 au 7, je crois que la circulation sera bloquée entre les ponts. Donc, les gens doivent comprendre. Vraiment, vraiment, et sans faire de la politique, moi, je pense que ce genre de situation, il faut comprendre la situation. Il ne faut pas qu'on dise qu'un président d'un pays... Vous vous rappelez, il y avait un président qui était venu, je crois que c'est le Mauritanien. Il y avait eu un coup d'État, il était à l'aéroport. C'est cela, je me rappelle. Il ne faut pas que ce genre de choses arrive. C'est une question d'honneur national, pas d'honneur du président. C'est une question de dignité. C'est une question qui va faire grandir le Niger. Donc, il faut éviter le minimum. Minimiser le maximum de problèmes.
Hassan Boukhar, ce sommet a quand même montré le peu d'intérêt des journalistes accordé à la carte de presse des journalistes professionnels. Hassan Boukhar, avez-vous aujourd'hui votre carte de presse de journaliste professionnel à jour?
Non, je n'ai pas ma carte à jour. Je pense que cette question de carte est liée aussi à l'accréditation des journalistes par rapport à cet événement. Alors, ça renvoie aussi un peu à la sécurité, en fait, parce qu'on veut avoir un contrôle, un meilleur contrôle, en fait, si tu veux, sur qui est qui arrive dans cet espace de sécurité. Je pense que la sécurité d'un événement comme celui-ci, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, à la fois pour les médias qui viennent couvrir, mais aussi pour les pays qui l'accueillent. Raphaël l'a rappelé, au Niger, si le président de la République se déplace, le pays est déjà presque en guerre. On a l'impression que le pays est en guerre quand on voit le matériel qui est déployé, les mesures qui sont prises pour éviter que les gens approchent déjà le goudron. On a l'impression que le pays est en guerre. Donc, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. Sauf que là, ça va durer 3-4 jours, le temps du sommet. Pour moi, les mesures qu'il faut prendre pour sécuriser, là, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de dire... pendant la période, on peut limiter l'accès des personnes, on peut mobiliser les FDS autour des sites, puisqu'il y a un site qui accueille l'événement. Le plus difficile, c'est pour le pays. C'est-à-dire que là, on sait aussi qu'au bout de 4 jours, c'est fini. Donc, tout ce qu'on prévoit, c'est pour les 4 jours. Le plus difficile, c'est pour le pays. Le pays est plus vaste, le pays est plus grand. Il est presque entouré de foyers de tension. Et donc, on ne sait pas quand ça arrive, à quel moment ça arrive. Et là, évidemment, l'enjeu pour le Niger, c'est de faire en sorte que ces groupes ne réussissent pas un coup d'éclat pendant le sommet.
Hassan Boukhar, revenons par rapport à la carte de presse des journalistes professionnels. Ouais. Pourquoi les journalistes nigériens ne s'intéressent pas beaucoup à cette carte?
Je pense que le Nigérien s'intéresse quand même. Alors, je ne sais pas s'il y a une communication suffisante pour les périodes pendant lesquelles on renouvelle cette carte.
Si mais le CSC le fait régulièrement?
Pardon, mais sinon, je pense que les gens quand même essaient de faire le débat que les journalistes ont souvent posé, c'est de dire que cette carte, par contre, elle n'est pas respectée. Que vous l'ayez, que vous ne l'ayez pas, ça ne change pas grand-chose. C'est un peu le débat.
C'est comme les badges.
Voilà, c'est un peu... Vous voyez bien, les médias, quand ils se déplacent quand même avec leurs badges, les badges de leurs médias. Mais la carte, je pense que le débat posé par les journalistes, c'est que ça ne vous donne pas la plénitude du pouvoir que ça devait vous donner. Par exemple, vous avez normalement accès, y compris à des barrières de police, vous avez accès à certains endroits privilégiés pour faire votre travail. Mais la carte ne vous prend pas. Alors, le CSC, à mon avis, doit aussi faire le travail de valoriser la carte. Parce qu'aujourd'hui, si sans la carte, vous n'avez pas accès à certaines choses, sûrement que tout le monde serait à jour parce que vous avez besoin de faire votre travail. Mais que vous ayez la carte ou que vous ne l'ayez pas, apparemment, en tout cas, c'est un peu le constat, peut-être que ça ne change pas grand-chose sur le terrain. Normalement, chacun doit avoir la carte, mais je pense que moi, je ne crois pas que les gens se désintéressent de la carte, hein, mais le débat que les gens posent, c'est surtout sur si on prend la carte, on n'a pas accès à tout ce que la carte devait nous permettre d'avoir.
Vous avez quelque chose à ajouter sur la carte de presse des journalistes professionnels?
Oui, c'est ça. Non seulement ce qui a abordé la valorisation de cette carte, son importance, son utilité, parce que un petit policier, excusez-moi du terme, peut te manquer de respect quand tu lui montres la carte, mais aussi ce qu'on la donne à n'importe qui. Moi, je pense que n'importe qui ne peut pas être journaliste. Ça, il faut aussi, au-delà de la valorisation que le CSC doit faire de la carte de presse, il faut aussi qu'on valorise d'abord en amont le métier du journaliste. quand on te donne la carte de presse, quand tu viens même devant un policier ou un gendarme, tu ne peux même pas expliquer que tu as la carte de presse, que tu es journaliste. Mais tu lui montres que ah, moi j'ai la carte de presse, je suis journaliste et tu ne peux pas te défendre. Moi je pense que ce n'est pas ça le journalisme. Et aujourd'hui, regardez aussi les journalistes qui sont accrédités au sommet de l'Union africaine. Je suis désolé, quand vous partez dans d'autres pays, dans des grands forums de ce genre, tu vois des grands journalistes qui sont accrédités. On ne peut pas faire accréditer n'importe quel petit journaliste, excusez-moi de l'expression, à un sommet où tu vas rencontrer des sommités de la diplomatie internationale, des affaires sécuritaires et autres. Quand tu vas rencontrer des grands chefs d'État, tu ne sauras même pas quelles questions tu vas leur poser. Tu vas juste tendre le micro parce qu'il faut tendre le micro. Ou bien quand quelqu'un te pose, répond à une question, tu reviens pour lui reposer la même question. Je pense que ce n'est pas intéressant. Moi, j'ai souvenance de la dernière campagne présidentielle de Youssoufou. On savait qu'il allait gagner et tout le monde le savait. Mais quand vous voyez les journalistes qui accompagnent le président de la République, ce n'est pas la peine. Je me dis, que font nos rédactions où on n'a pas de journalistes qui sont des bons journalistes qui sont dans des rédactions, ou bien il y a un je m'en foutisme et criard dans nos rédactions.
Peut-être que les bons journalistes sont aussi coûteux pour les rédactions, pour ces rédactions-là.
C'est presque des stagiaires ou des jeunes journalistes qui sont à peine de lifting qu'on envoie avec le président de la République. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, même si le président n'est pas d'une grande intelligence, avec l'expérience du terrain, il acquiert beaucoup de choses sur beaucoup de sujets d'importance nationale et internationale, de sorte que lorsqu'il parle, tu ne peux que le regarder et l'écouter et tu ne sais même pas à quel moment rebondir. Donc je pense que voilà pourquoi moi personnellement, quand j'étais sur le terrain, je n'ai jamais cherché la carte de presse du CSC.
Jusqu'à présent, tu n'as pas la carte de presse.
Je n'ai jamais cherché parce que pour moi, on la donne à n'importe qui. Et quand on la donne à n'importe qui, quelqu'un, il va se dire que toi et lui, c'est la même chose. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Non seulement il faut avoir un... Ce n'est pas obligé d'aller à l'IFTIC. Il y a des milliers qui sortent de l'IFTIC qui ne valent rien. Il faut avoir un niveau.
Il faut avoir
au moins un niveau pour exercer dans ce métier. Et lorsqu'on ne l'a pas, vraiment, on ne peut pas exercer. Que ce soit en français, en anglais ou en langue. Et surtout aujourd'hui, c'est 54 pays qui vont venir. Il y a des anglophones, il y a des lusophones. Il y a toutes sortes de...
Il y a des Arabes,
comment vous allez leur poser des questions?
Hassan Boukar, comment le Niger peut-il tirer un grand profit à travers l'organisation de ce sommet rapidement?
Alors, comment le Niger peut tirer profit? D'abord, je rappelle que cette rencontre a un objectif majeur, c'est celui de lancer une zone de libre-échange sur le continent. Ça veut dire qu'on veut créer un espace sans barrière de douane dans lequel les produits et les hommes devaient normalement circuler. Ceux qui tirent profit, ce sont ceux qui ont des choses à vendre. Bon, nous sommes dans un pays qui achète tout, en dehors de peut-être vendre...
Des consommateurs.
Nous sommes des consommateurs. Alors, on a du clichy, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier, mais de l'oignon aussi, on peut le dire. Mais par exemple, une production...
Les produits, l'élevage.
Mais ces produits ne sont pas transformés. Alors, on vend à la limite des matières premières, on n'arrive pas à transformer, puisque la plus-value dans le commerce, c'est la capacité à transformer, c'est ça qui donne la valeur au produit. Nous, on n'a pratiquement rien à vendre. Et du coup, nous, on avait donné, à Radio Alternative, on a donné la parole à un économiste en lui posant justement cette question. Et sa réponse consiste à dire, il faut que des pays comme le Niger, qui, à première vue, ont plus à perdre qu'à gagner, parce que nous sommes un pays quand même qui compte beaucoup sur les recettes de douane. Si vous dites libre-échange, ça veut dire que vous supprimez les barrières. Et du coup, les recettes qu'on est censé avoir de par la douane, on les perd. Mais on les perd au profit d'autres personnes, d'autres pays, qui eux ont des choses à vendre et qui gagnent finalement. Alors nous, comme le Niger, comme d'autres pays qui n'ont rien à vendre, il faut qu'on soit capable de discuter pour dire comment nous, ceux qui gagnent, quel est le mécanisme qu'on fait pour que ceux qui perdent ne perdent pas tout. C'est comme, par exemple, si vous prenez la zone du Yuma aujourd'hui, si vous dites c'est une zone, si que les choses rentrent par le port d'Abidjan, il y a des recettes qui viennent puisque c'est une zone extérieure à partir du port. Et donc, il y a un mécanisme de redistribution de ce qu'on gagne vis-à-vis de tous les pays à partir de la porte d'entrée. Alors, si on le fait sur le plan continental, on devient une même zone commerciale. Les pays qui n'ont rien à vendre, quel est le mécanisme qu'on trouve pour qu'eux, ils puissent tirer profit justement de ce sacrifice qu'ils font?
Là, à mon avis, c'est un vrai débat et je ne l'ai pas entendu pour l'instant dans ce pays. Regardez un pays comme le Nigeria, qui est la première ou la deuxième économie en Afrique, qui a des choses à vendre. Ils ont beaucoup discuté en disant qu'il faut qu'il y ait des experts, qu'on réfléchisse pour savoir qu'est-ce qu'on tire avant de s'engager. Alors nous, on s'est engagé. Alors pour l'instant, si tu me dis qu'est-ce qu'on va gagner tout de suite, je ne suis pas capable de le dire.
Rufai Dendoua, en 30 secondes.
Justement, j'allais dire la même chose. Abba a dit ça, je prends l'exemple du Nigeria. Ils ont beaucoup discuté, ils ont beaucoup réfléchi avec des grands techniciens pour savoir, c'est la première économie de l'Afrique, qu'est-ce qu'on va gagner quand on fait ça, qu'est-ce qu'on va perdre. Ils ont posé le pour et le contre. Et après, je pense que et aussi Buhari l'a fait politiquement. Et c'est peut-être sur le plan politique déjà que le président Issoufou gagne. Et le Nigeria qui va ratifier ça, qui va signer ça ici à Niamey, sur le plan politique, c'est important. Maintenant, supprimer les barrières douanières, est-ce que ça peut se faire? L'applicabilité aussi de cette mesure. Est-ce que ça, puisque aujourd'hui quand vous quittez Niamey pour aller à ici rien qu'à Ouagadougou, les barrières sont énormes. N'en parlons même pas d'Accra, n'en parlons pas de Mali, d'Abidjan. Donc je pense que ça, c'est après le sommet de l'IA, comment ça va s'appliquer sur le terrain.
L'Assemblée générale de la campagne Tournons la page s'est ouverte lundi à Niamey avec une quarantaine d'acteurs des organisations de la société civile nationale et internationale. Pendant 5 jours, l'orientation de la lutte de cette structure sera l'un des sujets à examiner. Plus de précisions, écoutons Michael Zodi, coordonnateur national de la campagne Tournons la page section du Niger.
Depuis qu'on a initié la campagne Tournons la page en 2014, nous n'avons pas organisé une assemblée générale mondiale. Donc c'est la première fois que nous organisons ces assises, ici même à Niamey, du 1er au 5 juillet. C'est dans ce cadre-là que les coalitions nationales, dont 8 pays sont là et d'autres coalitions qui sont déjà en cours d'engagement sont là. Donc nous avons 40 participants qui sont venus d'ailleurs des autres pays pour participer à cette assemblée générale et donner ces orientations-là.
Durant ces assises-là, qu'est-ce qui sera discuté?
Durant ces assises-là, nous allons discuter de notre vision 2020-2022. Et aussi, nous allons réfléchir sur les moyens pour faire la visibilité de notre mouvement. Et il y a aussi ce que nous appelons des partages d'expériences. Parce que les activistes qui sont dans les autres pays ont d'autres expériences à nous apporter. Nous aussi, nous avons notre expérience à partager avec eux et nous allons donner des orientations par rapport à la lutte à venir.
Hassan Boukar, la campagne Tournons la page milite depuis son lancement en octobre 2014 en faveur de la construction d'une opinion internationale autour de la défense des droits de l'homme, de l'alternance démocratique et la bonne gouvernance en Afrique. Est-ce facile ici en terre africaine?
Oui, je pense qu'il faut saluer l'initiative de Tournons la page. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement important, comme vous l'avez dit depuis 2014. Il occupe quand même un espace et c'est particulièrement intéressant. La campagne a surtout travaillé sur la question de l'alternance démocratique en Afrique. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, là où la campagne est très active, c'est dans des pays comme le Tchad, des pays comme le Congo, comme le Gabon, qui sont vraiment les plus mauvais élèves de la démocratie sur le continent, y compris le Niger. Hein. Je ne protège pas le Niger. Ils sont aussi actifs ici. La preuve, Michael qui vient de parler, justement, a passé plusieurs mois en prison pour son activisme. Donc ça montre.
Il a aussi remporté un prix.
Oui, et c'est une reconnaissance justement de l'engagement de la campagne. C'est extrêmement difficile en Afrique, mais je pense qu'aujourd'hui, la société civile a un rôle extrêmement important à jouer sur les questions de la démocratie. Aujourd'hui, en particulier, c'est très important. Pourquoi? Parce que finalement, la démocratie qui est née il y a à peu près un quart de siècle dans la plupart de nos pays d'Afrique, rappelez-vous de notre temps des conférences nationales en Afrique de l'Ouest, etc. Il y avait beaucoup d'espoir autour de la démocratie. Mais regardez aujourd'hui, à l'image de ce qui se passe au Niger, il y a des gens qui pensent que la démocratie fait partie du problème. Et c'est assez grave de le percevoir comme ça. Mais c'est la pratique qui fait qu'aujourd'hui, les gens pensent que la démocratie
le
n'est pas...
Le non-respect des textes.
Le non-respect. Mais la vision, la conception de la démocratie, la conception d'une élection, la gouvernance de façon globale, le rôle des citoyens, etc., le pouvoir des citoyens à travers la démocratie, je veux dire, la pratique de la démocratie fait qu'aujourd'hui, les gens pensent que la démocratie a amené des problèmes au lieu d'être la solution. Et donc, si on arrive à ça, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave. Et on sait que ce sont les pratiques, c'est la façon dont les régimes dits démocratiques se sont illustrés qui font que l'opinion a cette perception de la démocratie. Dans ce contexte, où
on considère que la démocratie est encore importante, je pense que la démocratie est importante, il faut qu'on se batte pour la ramener à ses fondamentaux, de façon à ce que la démocratie puisse vraiment être le cadre où les communautés choisissent leurs dirigeants, qu'il y ait un pouvoir d'influence, une capacité de contrôle sur ces dirigeants, qu'il y ait l'alternance, que le respect des droits humains, que la démocratie puisse rimer avec état de droit, respect des droits, avec une justice pour tous, ou alors on viendra un moment où les gens vont dire que cette démocratie a amené des problèmes, il faut l'abandonner, la démocratie, au risque d'arriver à ça. Et donc c'est pour ça que moi, pour moi, la lutte de la campagne Tournons la page est une lutte très noble, et je pense que cette lutte a sa place aujourd'hui sur le continent au vu des élections, des changements constitutionnels, des élections comme celles qui se passent au Niger où au deuxième tour on a un seul au point de départ pour être sûr qu'il sera seul à l'arrivée, en RDC où on désigne déjà le vainqueur. Alors, quand on voit un
Congo-Brazzaville.
Voilà, quand on voit Congo-Brazzaville, regardez comment.
Au Cameroun.
Regardez, vous parlez du Congo-Brazzaville. Rappelez-vous de l'épisode de Lissouba, comment un homme élu toute une guerre, y compris avec l'appui de certaines firmes. Comment on a fait la guerre pour faire tomber quelqu'un qui est élu démocratiquement, pour dire, même dans la démocratie, c'est toujours le plus fort qui gagne. Et donc, il y a un vrai débat sur la démocratie en Afrique. Et je pense que la campagne Tournons la page a toute sa place.
Rufai Dendoua, l'Assemblée générale de la campagne Tournons la page coïncide avec la tenue du 33e sommet de l'Union africaine à Niamey, au Niger. Est-ce un hasard de calendrier?
Avant de répondre à ça, j'aimerais finir par là où Abba a commencé. Et ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que c'est même les mêmes Africains, la même jeunesse africaine qui applaudit quand quelque chose... Regardez le cas de la République démocratique du Congo. Tout le monde savait que... comment il s'appelle, le président actuel n'a pas gagné.
Tshisekedi.
Tshisekedi, tout le monde savait. C'était un deal. Aujourd'hui, il a des difficultés même à gérer dans son... alors qu'il est élu.
Dans sa coalition.
Oui, dans sa coalition, il est presque maîtrisé de part et d'autre par l'ancien président. Mais pourtant, les Africains applaudissaient, ils étaient contents, disant que non, Fayalou,
Martin Fayalou,
c'était le candidat de l'Occident. Si, même si c'était le candidat de l'Occident, si le peuple l'avait élu, pourquoi ne pas laisser la population
choisir son propre
librement
dirigeant.
Oui, l'homme qu'il faut pour diriger sa destinée. Donc c'est le paradoxe aussi de la jeunesse africaine qui veut le beurre et l'argent du beurre. Maintenant, pour revenir à la question, déjà je pense que c'est une très bonne chose, la campagne Tournons la page, c'est une très bonne chose que des associations se réunissent pour organiser ce genre de rencontres. Mais aussi, il faut se dire la vérité. Même les acteurs de la société civile, il faut qu'ils balayent devant leur porte. Tu ne peux pas donner de leçons à quelqu'un quand toi-même tu n'appliques pas ces leçons. Aujourd'hui, quand vous prenez, pas seulement au Niger, presque en Afrique, depuis par exemple 2000 jusqu'à aujourd'hui 2019, tu peux trouver à la tête d'une même association le même président. Même si tu n'es pas élu, tu dois te dire que non, il faut qu'il y ait un changement. Il faut renouveler pour insuffler une nouvelle dynamique. Quand toi-même, tu ne peux pas descendre sous prétexte qu'il y a des prébendes que tu vas voyager chaque fois à tort et à travers, puisqu'à chaque fois, c'est toujours les mêmes patrons qui voyagent. Donc, pourquoi tu vas donner une leçon de démocratie à un président pour lui dire de tourner la page et de quitter le pouvoir? Donc, je pense qu'il faut que chacun balaye devant sa porte avant de penser donner des leçons à l'autre. Maintenant, moi je pense que ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas fortuit, c'est sciemment fait. Il y a le sommet des chefs d'État en organisant ça. C'est presque à marge du sommet de l'Union africaine, même si ce n'est pas le gouvernement qui l'organise. Je pense que c'est une manière de communiquer pour se faire entendre. Aujourd'hui, en le faisant pendant 5 jours ici à Niamey, au moins, les gens ont entendu parler de Tournons la page.
Rufai Dendoua, en tant que journaliste sportif, une minute de communication par rapport à la CAN 2019 qui se déroule en Égypte dans le cadre du 8e de finale.
Oui, je pense que les grands matchs vont commencer, puisque vraiment, on s'était ennuyé en regardant certains matchs. On avait dit que le niveau n'était pas
au rendez-vous.
Mais aujourd'hui, il n'y a plus de calcul. Lorsqu'on arrive aux phases à élimination directe, tout le monde doit jouer, parce que tu sais que dans tous les cas, un va gagner et un va perdre. Donc les gens, il y aura, c'est vrai, des tactiques, mais quand même, il y aura un qui va passer et l'autre qui va rester sur le quai, comme on dit. Il y aura des très belles affiches, surtout ici, l'Afrique de l'Ouest, entre, par exemple, le Mali et la Côte d'Ivoire. Ça va être une grande affiche, c'est un derby de la sous-région. Il y aura aussi un derby entre le Nigeria et le Cameroun. Même si les deux pays n'ont pas montré grand-chose, quand même, ça va être un grand match, vu le passif de ces pays. Je pense qu'il y aura des grandes affiches, mais moi, je maintiens toujours mes favoris, c'est les trois maghrébins, c'est le Maroc, c'est l'Égypte, c'est l'Algérie. Je vois s'ils ne se rencontrent pas encore de l'autre finale Maroc-Égypte.
Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Merci à nos invités Hassan Boukar, journaliste à la Radio Alternative, et Roufaï Dandoua, journaliste sportif. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Rendez-vous samedi et de 17h15 avec Hawa Ousmane pour le forum en Hausa et dimanche avec Habibou Garba pour le forum en Zarma. Merci, au revoir.